C'est bien. Nous allons reprendre donc le même texte que la dernière fois, parce que il est bien évident que dans un texte aussi profond et aussi puissant, hein, il y ait plus d'une vérité à souligner. Et il y a dans l'épître aux Philippiens, non pas que je veux faire des, comment dire qu'il y a des textes qui sont plus profonds que d'autres, mais il y a quand même deux grands textes qui donne un enseignement très, très sérieux de, aussi, non seulement au sujet du Seigneur Jésus-Christ, mais au sujet de notre vie chrétienne et sa rapport avec, aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc ces versets du chapitre 2, c'est chapitre 2, versets 1 à 11. Alors je le propose à votre méditation, à votre étude régulière. Lisez-le, méditez. Je vais vous dire certaines choses. Mais je suis loin, loin, loin d'épuiser le texte parce qu'il y a des vérités si grandes et si puissantes que vous n'avez pas assez de votre vie pour puiser dans cette source qui est tellement profonde et tellement large, tellement. Elle touche au ciel. Hein. Nous allons donc lire ces 11 premiers versets du chapitre 2, Philippiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point été regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Rien que de lire ce texte biblique, on est édifié et fortifié, et on pourrait même arrêter là l'étude biblique. Parce que le texte biblique est tellement beau, et tellement puissant, et tellement fort. Je m'émerveille toujours. Chaque fois que je le lis, c'est comme si je le lisais pour la première fois. Parce que on y découvre le Seigneur Jésus-Christ d'une manière tellement réelle et tellement forte. Nous avons médité les deux premiers versets la dernière fois. Je vous rappelle le contexte de cette épître aux Philippiens. D'abord, l'église des Philippiens était une église fondée par Paul. Elle avait été fondée au cours d'une persécution. Ensuite, Paul avait donc il avait des liens très profonds avec cette église. Ce n'était pas c'était ces Philippiens, c'était ses enfants. Hein, c'était des gens qu'il aimait, qu'il connaissait. Il les connaissait même particulièrement. Il y avait beaucoup de douceur entre eux. Et puis un jour, il a appris une triste nouvelle, c'est que il y avait une dispute, une querelle, et deux dames se disputaient. Mais elles se disputaient de telle manière que c'était pour la bonne cause. Ce n'est pas qu'elles avaient un conflit, elles avaient mauvais caractère, c'est que du point de vue de la doctrine, chacune avait son point de vue. C'était un problème qui allait beaucoup plus profond, hein, parce que il y a des gens, ils disent, ah, ces femmes, hein, encore, elles sont quand même dans l'église. Hein. Bon, les j'aime bien, mais elles font des disputes. Hein. Mais ce n'est pas ça du tout. Elles ne se disputaient pas parce qu'elles étaient d'un caractère difficile. C'est tout simplement parce qu'elles étaient confrontées à une erreur de doctrine et chacune avait pris parti pour un point de vue. Et donc, elles étaient en conflit. Et le pasteur, lui, il contemplait la chose, il ne tranchait pas. Alors, en fait, il y a trois personnes en tort. Il n'y a pas seulement ces deux femmes. C'est le pasteur qui aurait dû normalement servir d'arbitre et intervenir et dire, mettre les choses au clair, et dire il y a un problème de point de vue, de doctrine, alors mettons-le en règle, discutons-en sérieusement. Mais au lieu de faire ce genre de choses, eh bien, il laissait courir la situation. Et là, je me permets de dire, mais beaucoup de pasteurs agissent de cette manière-là. Ils attendent qu'une situation se pourrisse, qu'elle se détériore. Et alors, c'est sur des cadavres que l'on a que finalement on apporte des solutions. Quand les choses sont plus qu'un chaos, eh bien, on va et on dit oui, mais il y a ceci, il y a ça, parce qu'il semble que la situation est plus facile à résoudre parce qu'on a laissé les choses se pourrir. Il n'y a que des morts, donc c'est plus difficile de résoudre le problème. Mais tandis que quand les gens sont actifs et qu'ils sont pleins de verve et qu'il y a des opinions et que on doit chercher des arguments et dire mais non, mais c'est d'une manière ou d'une autre, donc il y a plus de comment dire, j'allais dire de niaque. C'est il faut qu'on s'y mette, et c'est il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on sonde la parole, il faut qu'on aille vers les textes, qu'on dise non, mais cette chose-là, c'est de cette manière-là, mais ce n'est pas comme cela. C'est vous voyez pourquoi ce pasteur laissait courir, parce qu'il était dépassé par la situation. Et au lieu de faire appel à quelqu'un d'autre pour résoudre le problème avec lui, eh bien, il laissait courir. Voilà. Ça, c'était. Et Paul, quand il a appris cette nouvelle dramatique, eh bien, il a écrit cette lettre. Et elle est imprégnée de cette. Dans tout ce que vous lisez, vous avez cette imprégnation de son désir de réconcilier cette église. Parce qu'en fait, ces deux dames se disputaient, mais il y avait des personnes qui s'étaient mises d'un côté et d'autres de l'autre. L'Église était divisée en deux, et même peut-être en trois, parce qu'il y avait ceux qui ne prenaient pas parti et qui disaient tout ça, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est peut-être le parti le pire, hein, parce que les indifférents, c'est ne sont pas forcément le bon parti. Mais donc, c'est pour cela que Paul dit que rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est faites tous vos efforts pour qu'il y ait une unité, une véritable unité. Et là, nous entrons dans le vif de quelque chose de très important. Souvent, nous disons que nous avons une bonne communion fraternelle, parce qu'on ne se dispute pas. Mais en fait, on ne sait pas qu'on ne se dispute pas. C'est qu'on n'a pas l'énergie de se disputer. On n'a pas de sujet de dispute. Donc on ne se dispute pas. Gloire à nous. Voilà. Mais il y a, une même âme, une même pensée, un même amour, une même. Ah non, quand même pas. Hein. C'est comme disait quelqu'un, ils sont plutôt fusionnels, ceux-là. C'est une critique. Hein. Dans notre monde, si quelqu'un est fusionnel, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Mais moi, je crois que oui. Je crois qu'on doit faire une unité. Et l'Église de Dieu, c'est vrai que nous sommes tous les uns et les autres. Nous sommes différents, nous avons des tendances différentes, nous sommes des personnalités différentes, nous avons des caractères différents. Gloire à Dieu, grâce à Dieu. Il y a même maintenant des ethnies et des races différentes dans l'Église. Avant, nous étions tous des Français. Maintenant, l'Église est colorée. Alors, c'est quelque chose de merveilleux. On se rend compte que l'on est des frères et sœurs en Christ. Et chacun apporte ses tendances et ses petites habitudes. Rien de mauvais, rien de désagréable, mais nous sommes différents. Et c'est pour certains, c'est un sujet de discorde, parce qu'ils trouvent le rang de la discorde partout. Mais c'est des moments de rapprochement, de se retrouver. Moi, je rends grâce à Dieu, je loue le Seigneur de ce que j'ai connu les églises d'une certaine manière, maintenant je les connais d'une autre manière, et je me dis, comme c'est un pasteur chinois qui m'avait dit ça, il ne me l'avait pas dit, il avait prêché, donc je l'avais entendu, j'avais pris pour moi. Et il a dit, vous n'avez pas envoyé des missionnaires, il était chinois, mais du Cambodge. Et alors il a dit, vous n'avez pas envoyé des missionnaires au Cambodge? Eh bien, maintenant, les Cambodgiens sont chez vous. Alors maintenant, vous allez bien leur annoncer l'Évangile, puisque vous n'avez pas eu l'énergie d'aller leur annoncer l'Évangile. Voilà, les églises sont composées de toutes les nations, et c'est quelque chose de merveilleux. C'est un goût du ciel. Hein. Et c'est là que nous devons être vigilants et faire attention, parce que les susceptibilités sont facilement exacerbées. Et nous disons, oh, le frère, bon, il est un peu pénible, hein, mais on ne le dit pas. On se le dit au fond de soi-même. C'est, oui, ben, il est comme ça, il a ses trucs, et puis, voilà. Mais faites en sorte d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, la même volonté, les mêmes désirs, une même âme. C'est apprenez, et c'est, vous savez, ce n'est pas une méthode que je vais vous donner, mais pensez à vos frères et sœurs et priez pour eux. Dites Seigneur, bénis-le, remplis-le de ton Saint-Esprit. C'est mon frère, c'est ma sœur. Et vous pensez profondément à cette personne et vous dites Seigneur, je me réjouis du frère, je me réjouis de la sœur. Je te demande de poser ta bonne main sur lui, sur elle, de conduire dans tes voies, de la mener plus loin. Oh, fais grandir mon amour pour mon frère, pour ma sœur. Qu'il vraiment je sois un frère ou une sœur pour un tel ou pour une telle. Vous avez ce genre de prière, d'unité. Vous avez la soif de faire une unité dans l'Église. C'est pas l'unité, c'est pas parce que tout le monde a la même opinion. L'unité, c'est beaucoup plus profond que cela. Ça passe par aussi, on a la même doctrine, on a les mêmes idées, d'accord. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Donc je ne veux pas aller plus loin. Hein. Il est même dit une même âme. Hein. Et puis, c'est la première fois que Paul parle, hein, « Rendez ma joie parfaite hein. ». À plusieurs reprises, il va parler de la joie. Hein. Au reste, frère, réjouissez-vous toujours de le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, etc. Mais quand il y a de l'amertume, quand il y a des tensions vis-à-vis des autres, la joie est perdue. Et je pense que la première des choses que l'on perd, c'est la joie. La paix aussi. Mais ce sont les premières choses que l'on perd quand on commence à dire oui, mais lui, mais elle. Et quand c'est sur des questions d'opinion. Après, on peut être en désaccord avec une personne parce que cette personne a un comportement scandaleux. Là, nous ne pouvons pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord avec le péché. On ne peut pas être d'accord avec la transgression de la parole de Dieu. Je suis bien clair là-dessus. Mais après, s'il est question d'opinion, s'il est question de ceci ou de cela, et il y a des personnes qui disent une chose d'une manière et d'autres d'une autre. Hein. Il y a des personnes qui servent la Sainte-Seine avant le culte, d'autres qui servent la Sainte-Seine après. Il y a des personnes qui font la Sainte-Seine toutes les semaines, d'autres la Sainte-Seine est une fois par mois, mais d'autres c'est tous les 15 jours. Et puis le repas fraternel, et puis tout ça, ce sont des divergences qui ne méritent même pas l'attention. On se met d'accord sur certaines choses et on les définit, on approfondit la chose et on dit voilà, c'est comme cela qu'on va faire. Mais ce n'est pas une question d'opinion ou de divergence, chacun donne son avis et puis finalement on entre dans un consensus et on se dit voilà, c'est tout ça, ben, on va faire de cette manière-là. Et puis, chaque église, vous allez dans une église, vous êtes en vacances, vous allez dans une église, ah, ils servent la Sainte-Seine au début du culte, nous le savons après. Voilà, c'est chacun son opinion là-dessus. Puis ce n'est pas une question, hein, une question grave. Donc, rendez ma joie parfaite. Et parce que Paul était attristé de voir ce qui se passait dans l'église des Philippiens. Alors, là, il continue. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Là, vous avez quelque chose, si vous aviez du marbre et un burin, je vous le conseille, vous saviez le hein, graver, eh bien gravez-le, pas sur le pupitre dans votre, comme font les écoliers, mais notez-le et approfondissez cela. Parce que ne faites rien par esprit de parti. On n'est pas dans un parti. C'est vrai que nos convictions sont ce qu'on appelle des convictions baptistes. Mais ce n'est pas un parti. Ce sont des convictions. Et c'est parce qu'on est fondé sur la parole de Dieu et on n'a pas pris parti pour une chose. Ce n'est pas une adhésion intellectuelle. Nous n'avons pas suivi un mouvement. Mais il y a des convictions intérieures. Et ce sont des choses sur lesquelles nous sommes appuyés bibliquement et nous disons, ces choses-là, nous les pratiquons parce que c'est dans la Bible. Mais il y a un pas supplémentaire. C'est vrai que, je vais venir au pas supplémentaire après, mais il est dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et je peux vous dire une chose, si vous saviez le nombre de personnes qui travaillent pour la gloire, oh bien sûr, dans le monde on dit oh, oui, il travaille pour la gloire, ça veut dire qu'il est désintéressé, mais il n'est pas désintéressé, puisqu'il travaille pour la gloire. Il ne travaille pas pour l'argent, il n'est pas intéressé par l'argent, mais il est intéressé par la gloire. Ne me dites pas qu'il est désintéressé. Il aime les honneurs, il aime présider, il aime à la première place, il aime qu'on mette son nom sur les affiches, que son nom paraisse dans les journaux, et qu'on cite au moins son nom une fois par semaine. Bien sûr, ce n'est pas l'argent, c'est la gloire. Mais ne faites rien, nous sommes chrétiens. Je vais vous dire, vous pouvez être oublié. L'important, c'est que l'on pense à Christ. Dans votre vie chrétienne doit laisser une trace dans le monde par lequel vous passez. Nous vivons dans une certaine époque. Vous laissez une trace, mais cette trace, c'est celle de Jésus-Christ. Les gens ne vont pas dire « Ah oui, mais c'est lui qui m'a amené au Seigneur. Oh, mais c'est lui qui a fait ceci. Mais c'est lui qui a fait ça. » Si vous cherchez cette vaine gloire, vous ne cherchez pas à ce que Christ soit glorifié. Christ doit être glorifié. C'est tout ce qui revient à l'homme est enlevé de Christ. Il y avait un serviteur de Dieu, je citerai même le nom, c'est Ruben Toré. Il avait horreur qu'on le prenne en photo. Les photos étaient très rares à son époque. C'était dans les grandes occasions que l'on prenait les photos. Puis il y avait tout un matériel, la cape noire et tout. Et bon, bref, il y avait et puis le grand flash, etc. Et il avait horreur. Et il disait, je ne veux rien enlever de la gloire qui revient à Christ. C'est un homme qui voulait toujours que Christ soit glorifié. Toute la gloire revient à Christ. Si jamais les gens ont tourné les regards vers vous parce que vous avez été exceptionnel, alors vous avez enlevé la gloire qui revient à Christ. Vous avez détourné un rayon de sa gloire vers vous et vous avez pris quelque chose qui n'est pas à vous. La gloire revient à Christ. Que l'on parle de vous ou que l'on ne parle pas de vous, c'est sans importance, pourvu qu'on parle de Christ. Vous n'êtes qu'un élément dans le grand édifice que le Seigneur Jésus-Christ construit et qui est construit à la gloire de Christ. C'est le dernier verset que nous avons lu, c'est même le dernier, l'avant-dernier. « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » C'est un mot d'ordre, ça aussi. Je vous demande de regarder beaucoup de choses. Mais toujours Christ, Christ, Christ en premier, Christ au centre de votre vie. C'est tout le reste. C'est ce que l'on appelle humainement réussite. Si cela vous détourne de Jésus-Christ, c'est une perte. Et vous verrez que plus tard, Paul le met encore plus en avant. Mais on descend. On apprend à descendre pour que Christ soit glorifié. Si vous êtes sur le trône de votre vie, vous êtes à la mauvaise place. Le trône de votre vie est occupé par Christ, par personne d'autre. Et je peux dire une chose. Un jour, j'ai compris cela et je l'ai accepté. Et j'ai fléchi les genoux devant Christ. Et j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, prends la première place dans ma vie. C'est personne, aucun homme, aucun être humain au monde ne prendra la première place dans ma vie. Et ça m'a causé beaucoup de problèmes, parce que je n'ai jamais fléché les genoux devant personne. C'est comme cela. Mais c'est vrai que nous devons fléchir le genou devant Christ. Si nous avons fléchi le genou devant Christ, nous fléchirons le genou devant personne d'autre. C'est parce que ce monde vous demande de fléchir le genou. C'est un jour, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, tu sais, j'en ai assez d'aller aux études bibliques. Si tu voulais venir faire l'étude biblique chez moi, je te donnerais 500 francs. À l'époque, c'était des francs. Donc, je dis jamais. Je ne travaille pas pour l'argent. Et jamais. Si vous ne venez pas à l'église pour l'étude biblique, je ne vais pas aller pour de l'argent. Et il y a quelqu'un qui y est allé pour de l'argent. Mais on ne travaille pas pour l'argent. On ne travaille pas pour la gloire. On ne travaille pas pour un homme, on travaille pour Christ. C'est Christ qui est au centre, qui est Christ qui est assis sur le trône. C'est Christ qui prend la première place. C'est une règle absolue. Et c'est un moment dans votre vie où vous faites ce choix. Ce n'est pas une autre expérience. Hein. L'expérience que nous avons, c'est quand Jésus-Christ devient notre sauveur. C'est l'expérience de notre salut. Mais ce que je vous dis là, ça fait partie. C'est le processus suivant. Pendant des années, dans ma vie chrétienne, j'étais déjà pasteur, j'étais dans ma première année de ministère. Et je me disais, mais qu'est-ce qui vient après la conversion? Parce que je me sentais vide. Bien sûr, j'avais des résultats. Par la grâce de Dieu, j'avais des résultats. Et tout le monde regardait vers moi et disait, mais il a des résultats. Mais moi, je n'étais pas satisfait, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et un jour, j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vous raconterai pas toute l'histoire. Mais c'est un verset dans Philippiens. J'ai lu l'épître aux Philippiens en entier pendant une journée, dans la prière. Et il m'a donné un verset. Il m'a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je n'ai pas compris tout de suite ce verset. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est ta réponse, mais je ne la comprends pas. Et j'ai besoin que tu l'expliques. Et quelques jours plus tard, peut-être 15 jours, 3 semaines plus tard, il y a un pasteur qui a parlé de ces choses-là. Il a dit qu'il avait une bénédiction, etc. Et au fond de moi-même, le Saint-Esprit me disait, va vers cet homme, c'est lui qui est ta réponse. Et la réponse, c'est Christ qui est assis sur le trône. Tant que Christ n'est pas assis sur le trône, si c'est moi qui suis assis sur le trône, si je regarde vers mes succès, si je regarde vers ma réussite, si je regarde vers mon ministère pastoral, eh bien je vole la gloire qui revient à Christ. La gloire est à Christ. Celui qui est assis sur le trône, c'est Christ. Et je peux vous dire, il m'arrive plusieurs fois de remettre Christ sur le trône de ma vie. Parce que le péché a tendance à me remettre sur le trône. Et quand je confesse mon péché et que je m'humilie d'avoir repris le contrôle de ma vie et d'avoir pris l'initiative par le péché, d'avoir commis un acte d'indépendance vis-à-vis de Christ. Et là, je dis, Seigneur Jésus-Christ, reprends le trône de ma vie, reprends le contrôle de ma vie, non pas ma vie, mais la tienne. Ma vie, ce n'est pas ma vie, c'est ta vie. Non pas moi, mais toi. Un jour, vous savez, je ne vous raconterai pas cette expérience parce qu'elle est bien précieuse et c'est quelque chose de particulier. Mais j'ai compris une chose, c'est que mes mains n'étaient pas mes mains, c'était les mains de Christ. Elles appartenaient à Christ. Mes yeux n'étaient pas mes yeux, ils appartenaient à Christ. Mes pieds n'étaient pas mes pieds, ils appartenaient à Christ. Ils étaient au service de Christ. Je ne pouvais pas faire avec mes mains ce que je voulais, parce que ses mains étaient au service de Christ. C'était une expérience bien précieuse. Vous savez, le jour où j'ai découvert ça, j'étais bouleversé au fond de moi-même. Hein. Mais ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont vos supérieurs. C'est-à-dire que vous devez les servir. Vous êtes serviteurs les uns des autres. Ah, on dit, mais c'est réciproque. Pas du tout. Vous êtes serviteurs. Que les autres vous servent, c'est leur problème. Mais vous, vous devez les servir. Vous êtes au service des autres. Que l'humilité vous apprenne à regarder les autres comme étant supérieurs à vous-même, c'est-à-dire dignes d'être servis, de passer du temps. Jamais personne ne vous dérange. Personne n'est comme un cheveu sur la soupe, hein, excusez-moi l'expression, ou des choses de ce genre. Hein. C'est ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est pas imiter les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parce que je vais vous raconter une petite histoire. Oh, Caroline, tu es dans la chose. Hein. Mais ben, je vais faire une imitation. Si je commence à faire une imitation des billets de 50 euros. Ah, ben oui, je m'exerce. Ben, on n'a pas le droit. Oui, si, je crois qu'elle va vous le dire. On n'a pas le droit de s'exercer à faire des vrais billets, des vrais faux billets. Donc, pas plus, là. Vous n'avez pas à vous exercer, parce que c'est la fausse monnaie. C'est ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas les mêmes sentiments, ce sont les sentiments de Jésus-Christ en vous. Et c'est comme cela que vous aimez les autres, parce que c'est les sentiments de Jésus-Christ, ce n'est pas les vôtres. Les vôtres, vous ne pouvez pas aimer tout le monde. Il y a des personnes, vous ne les aimerez jamais. Et il y a des gens qui ils sont pas aimables, ils sont très difficiles à aimer. Mais quand on a les sentiments de Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et à qui il disait ça? À ses bourreaux, aux personnes qui le crucifiaient, à ceux qui se moquaient de lui. Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. Prouve-nous que tu es le Fils de Dieu. Vas-y, montre-nous. C'était le diable qui les inspirait. Et le Seigneur Jésus-Christ a prié pour eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un amour immense, un amour qui perd tout, qui se perd pour les autres, qui se perd pour gagner les autres. S'il fallait tout perdre pour gagner les autres, vous seriez prêt à tout perdre pour Christ, pour la gloire de Christ. Il y a des personnes qui ne sont pas prêtes. On n'est pas prêt à perdre un peu de son confort. On n'est pas prêt à perdre un petit peu de son temps. On n'est pas prêt à perdre des choses qui... Même le superflu, même les choses que vous mettrez à la poubelle, vous n'êtes pas prêt à les perdre pour quelqu'un, pour une âme. On est capable de perdre du temps à des millions de choses. Millions, c'est un grand mot. Mais à toutes sortes de choses, à n'importe quoi, ça veut dire. Mais c'est quand il s'agit d'une âme, d'un frère ou d'une sœur qui est en peine, qui a besoin simplement de parler, de dire quelque chose. Là, nous sommes exigeants. Il m'ennuie. Mais nous avons perdu du temps avec des choses qui sont sans valeur, qui sont sans conséquences, qui sont perdues pour l'éternité. C'est ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est les sentiments de Jésus-Christ. C'est Christ en vous. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est Paul qui le dit aux Philippiens. C'est un Jean aussi qui dit cela. Vous avez Christ qui prend la première place, Christ qui est Seigneur, qui a toute l'autorité, qui est sur le trône de votre vie, celui qui contrôle tout. Je peux dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Si vous avez cherché quelque chose de facile, ce n'est pas facile. Fléchir le genou et reconnaître la seigneurie de Christ, reconnaître Christ en tout, être dépendant de lui, être sous son contrôle, c'est une dure école, vous savez. Ça ne se fait pas du premier jour. On a bien le désir. On fait les premiers pas. Mais c'est quand on accepte Jésus-Christ comme son sauveur, c'est définitif. Mais après, quand il s'agit de marcher dans la vie chrétienne et de marcher sous le regard de Christ et sous le contrôle de Christ, eh bien, nous avons tendance à reprendre le contrôle. Hop, en une seconde, nous avons repris l'initiative. Et au bout de la journée, vous dites, mais j'ai vécu... Je suis inconséquent, j'ai fait des choses que c'est sans valeur. Et je peux vous dire, c'est dans nos achats, c'est dans notre vie de tous les jours, mais vous dites, mais tout le monde le fait, tout le monde change de voiture, tout le monde achète ceci, tout le monde achète cela. Pas tout le monde. Nous sommes sous le contrôle de Christ. Christ nous dit, c'est pas pour toi ça. Pour les autres peut-être, mais pas pour toi. J'ai d'autres projets pour toi. Va dans cette direction-là. Ce ne sont pas mes goûts, ce ne sont pas mes avantages que je recherche, c'est ceux de Jésus-Christ. Et c'est comme cela, quand un groupe de chrétiens marche de cette manière-là, alors je peux vous dire, mais il y a l'unité. On s'oublie pour les autres, on perd ses intérêts. On ne regarde pas que, bon, ben, il m'a parlé mal, ou il m'a pas salué, ou il n'a pas... Je connais des gens, ça fait trois fois... Trois dimanches de suite que cette personne ne me dit pas bonjour. Et ça crée un problème. Ne regardez pas ces choses-là. Ça n'a aucune importance. La personne ne vous a pas dit bonjour. Intentionnellement ou par inadvertance, parce qu'elle n'a pas eu l'occasion, ça la regarde. Mais vous, vous êtes responsable pour une chose. C'est de l'aimer quand même. Et de l'aimer toujours. Avec les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Et d'avoir toujours Christ à la première place. Christ Seigneur. Christ l'autorité suprême. Ne vendez pas ce droit d'aînesse, parce que Satan essaye de vous le voler, parce que ça, c'est votre droit d'aînesse. Ça, c'est le meilleur que vous avez. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tout ce qui vous vole Christ, tout ce qui vous fait perdre de vue Christ, c'est du vol. Vous avez été trompé. On vous a pris ce qui était à vous. C'est votre héritage. Ce sont vos promesses. C'est ce que Dieu vous a donné. Vous n'avez pas meilleur que cela. Vous pouvez avoir tous les biens du monde si vous n'avez pas Christ en vous. Vous êtes les plus malheureux du monde. Si vous n'avez jamais goûté combien Christ est bon, vous ne pouvez pas parler. Parce que quand on a goûté combien Christ est bon, combien nous avons goûté la proximité de sa présence, quand on a goûté sa voix, on a entendu sa voix, on a goûté à ce qu'il est, à sa douceur, à sa patience, à sa bonté, vous avez été dans sa proximité. Toutes les choses de ce monde paraissent mièvres et faibles et petites et sans valeur. Parce que vous avez goûté à ce qui est plus grand que tout ce qui peut être plus grand. Il n'y a rien de plus grand que Christ. Il est l'autorité suprême, il est au-dessus de toute chose. Et c'est comme cela que vous êtes dans la joie perpétuelle, dans la joie complète. Mais ce n'est pas la joie que vous recherchez, c'est Christ. Mais quand vous avez Christ, vous avez la joie, vous avez la paix, vous avez l'amour, vous avez tout le fruit de l'Esprit, parce que c'est Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit à ses disciples, il a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et quand Dieu parle, sa parole crée quelque chose en nous. Donc le Saint-Esprit, quand il nous annonce Christ, il met Christ en nous. Et quand vous découvrez l'amour de Christ, la douceur de Christ, la patience de Christ, vous dites, mais il y a quelque chose qui se fait en vous, qui se crée en vous, vous grandissez en Christ. Voilà, c'est la croissance. La vraie croissance, c'est en Christ. Paul pouvait dire, je connais un homme en Christ. Il parlait de lui. Je connais un homme en Christ. Bon, bien sûr, il parle d'une révélation qu'il a eue dans 2 Corinthiens, mais c'est un homme en Christ. On peut dire une femme en Christ aussi, hein. Il n'y a pas que les hommes. Hein. Ce n'est pas quelque chose de réservé, il n'y a pas un privilège réservé aux hommes. C'est toute personne née de nouveau est responsable pour mettre Christ en premier dans sa vie. Bon, si vous n'avez retenu qu'une chose ce soir, eh bien c'est celle-là, que Christ doit être à la première place dans votre vie. Christ doit être sur le trône de votre vie. Et je peux vous dire, ne laissez aucun repos à vos yeux ou à votre corps que Christ est la première place dans votre vie. Je peux vous dire, il n'y a rien de plus beau, rien de plus merveilleux. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous êtes trompé par l'ennemi de Dieu et qui vous essaye de vous faire croire que vous pouvez être bien content et bien satisfait et satisfaite avec votre vie de rechercher les choses de ce monde et courir à droite et à gauche avec tout ça. Ça n'a qu'un temps. Un jour, nous serons dans la présence de Christ pour l'éternité. Et alors, à ce moment-là, comment nous serons? On l'a méprisé toute notre vie. Vous croyez qu'on va se réjouir dans sa présence? Bon, bien sûr, au début, on va voir son regard consterné. Voilà, je t'avais donné une vie, c'est tout ce que tu en as fait? Tandis que si vous avez mis Christ à la première place dans votre vie, vous entrerez dans sa gloire, vous entrerez dans sa présence. Vous avez attendu ce jour qui est... Vous naissez à une nouvelle vie, vous naissez à la vie éternelle, vous entrez dans la présence de Christ pour l'éternité. Il est celui que vous avez aimé toute votre vie et vous le rencontrez enfin face à face. Il n'y a pas de plus grande joie que de le rencontrer face à face. Il y a des personnes qui regrettent d'aller de l'autre côté et ils se disent, mais le plus tard possible, hein. Je me rappelle de mon professeur de doctrine, il m'a dit, je préfère arriver 5 minutes en retard dans cette vie que 10 ans trop tôt dans l'autre. Façon de parler, hein, c'était une plaisanterie, quoiqu'il était calviniste. Hein. Il croyait que tout était prédestiné, je n'ai pas trop bien compris ce qu'il disait. Mais il y a un jour où nous allons voir Christ face à face. Et ça, c'est la plus grande chose qui puisse nous arriver. Voilà.